Chapitre 6. Aucune furie ne vint me chercher cette nuit-là, ni le lendemain matin, ni l'après-midi suivant. Au crépuscule, j'allais trouver ma mère devant son miroir. « Où est père ?»«
Il est allé directement chez Océan. Le banquet a lieu là-bas. »
Elle fronça le nez en coinçant sa langue rose entre ses dents. « Tes pieds sont dégoûtants. Tu ne peux pas au moins te les laver. » Je m'en gardais bien. Je ne voulais pas attendre une minute de plus. Et si Scylla était à ce banquet, en train de se prélasser sur les genoux de Glaucos? Et s'ils étaient déjà mariés? Et si la sève n'avait pas fonctionné? Je trouve étrange à présent d'avoir pu m'inquiéter à ce sujet. Le palais était encore plus encombré qu'à l'habitude, empestant la même huile de rose dont chaque nymphe assurait qu'elle constituait son charme unique. Je ne vis pas mon père, mais ma tante Sélénée était présente. Elle se tenait au centre d'un essaim de tête levée, telle une mère devant ses oisillons qui attendent d'être gavés.
Il faut que vous compreniez que je suis juste allée voir parce que l'eau était si déchaînée. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de rendez-vous. Vous savez comment est-ce là.
Je crus que j'allais m'arrêter de respirer. Mes cousins ricanaient d'un air entendu. Quoi qu'il arrive, pensais-je, ne montre rien.
Mais elle se débattait très bizarrement, comme une sorte de chat qui se noie. Et ensuite, je n'arrive pas à le dire à voix haute.
Elle pressa sa main argentée sur sa bouche. C'était un geste adorable. Tout chez ma tante était adorable. Son mari était un beau berger qui dormait d'un sommeil sans âge grâce à un enchantement, rêvant d'elle pour l'éternité.
« Une patte !» dit-elle. « Une patte hideuse, comme celle d'un poulpe, sans os et couverte de bave. » Elle a jailli de son ventre, et une deuxième a jailli juste à côté, et encore plusieurs autres, jusqu'à ce qu'il y en ait 12 qui se balancent.
La sève me piquait légèrement le bout des doigts, à l'endroit où je l'avais touchée.
« Et ce n'était que le début ?» reprit Sélénée. « Elle remuait dans tous les sens, sa figure se tordait. » Sa peau est devenue grise et son cou a commencé à s'étirer. 5 autres têtes en ont jailli, chacune béant sur un tas de dents.
Mes cousins poussèrent des cris, mais ce son était lointain, pareil à des vagues éloignées. L'horrible scène décrite par Sélénée me paraissait impossible à imaginer. Je n'arrivais pas à me dire « c'est moi qui ai fait ça ».
Et pendant tout ce temps, elle hurlait et aboyait, telle une meute de chiens sauvages. Quel soulagement quand elle a fini par plonger dans la mer!
Lorsque j'avais pressé la sève de ses fleurs dans le bassin de Scylla, je n'avais pas pensé à la réaction de mes cousins, surtout ceux qui étaient ses sœurs, ses tantes, ses frères ou ses amants. Si j'y avais songé, j'aurais supposé que, comme elle était leur petite chérie, ils auraient crié plus fort que les autres pour voir mon sang couler au moment où les furies viendraient me chercher. Néanmoins, en regardant autour de moi, je ne vis que des visages aussi lumineux que des lames acérées.
J'aurais bien aimé voir ça.
Tu imagines un peu ?
Raconte-la encore !
S'écria un de mes oncles, encouragé par les cris approbateurs de l'assistance. Ma tante sourit. Ses lèvres s'arrondirent en un croissant qui rappelait sa forme dans le ciel. Elle répéta son histoire, les pattes, les coups, les dents. Le bourdonnement des voix de mes cousins emplit la salle jusqu'au plafond.
« Tu sais qu'elle a couché avec la moitié du palais ?
Je suis content de ne jamais lui avoir cédé. »
Et l'une des voix d'un dieu fleuve s'élevant au-dessus des autres.
« Bien sûr qu'elle aboie, ça a toujours été une chienne !»
Leurs cris de joie me vrillaient les tympans. Je vis le dieu fleuve qui avait juré de se battre pour elle avec Glaucos pleurer de rire. Les sœurs de Scylla firent semblant de hurler à la mort comme des chiens. Même mes grands-parents étaient venus écouter, tout sourire, à la périphérie de la foule. Océan dit quelque chose à l'oreille de Thétis. Je ne parvins pas à l'entendre, mais en l'observant pendant presque une éternité, je reconnus les mouvements de ses lèvres.
Bon débarras.
À côté de moi, un oncle cria
« Raconte-la encore !»
Cette fois-ci, ma tante se contenta de rouler ses yeux nacrés. Il empestait les anguilles et de toute façon, il était largement temps de festoyer. les dieux flottèrent vers leur couche. On emplit les coupes, l'ambroisie circula. Le vin rougit leurs lèvres, leurs visages se mirent à luire comme des bijoux. Autour de moi, des rires crépitaient. Je connaissais ce plaisir électrique, songeais-je. Je l'avais déjà vu dans une autre salle sombre. Les portes s'ouvrirent et Glaucos entra, trident à la main. Ses cheveux étaient plus verts que jamais, hérissés en tous sens, telle la crinière d'un lion. Je vis la joie enflammer les regards de mes cousins, entendis le sifflement de leur excitation. Il allait y avoir encore plus de sport. Ils allaient lui raconter la transformation de son amour, démolir son visage comme on casse un œuf et rire de ce qui en ressortirait. Cependant, avant que quiconque puisse ouvrir la bouche, mon père apparut, fondant sur lui pour le prendre à part. Mes cousins se rassirent, dépités. Ce rabat-joie d'Hélios qui leur gâchait leur plaisir. Qu'importe, Persée lui tirerait plus tard les vers du nez, ou Sélénée. Ils levèrent leurs gobelets et retournèrent à leur plaisir. Je suivis Glaucos. Je ne sais pas comment je réussis à oser, juste que ma tête était emplie d'un tumulte gris semblable à celui des vagues déchaînées. Je me postai derrière l'entrée de la pièce où mon père l'avait entraîné. Je l'entendis demander d'une voix sourde. « On ne peut pas la transformer dans l'autre sens ?» Tous ceux qui sont nés dieux connaissent la réponse à cette question dès le berceau. « Non, » répondit mon père. « Aucun dieu ne peut défaire l'œuvre des parques ou d'un autre dieu. Cela dit, ce palais recèle un millier de beautés, tout aussi magnifiques les unes que les autres. Regarde-les plutôt. »
J'attendis. J'espérais encore que Glaucos allait penser à moi. Je l'aurais épousé sur le champ. Mais je m'aperçus que j'espérais aussi autre chose, que je n'aurais pas cru la veille encore. Qu'il pleurerait tout le sel de ses veines pour que Scylla revienne, s'accrochant à son seul amour.
« Je comprends, » lâcha Glaucos. « C'est dommage, mais comme tu le dis, il y en a d'autres. »
Un léger son métallique retentit. Il grattait les branches de son trident avec ses ongles.
« La plus jeune fille de Néré est belle. Comment s'appelle-t-elle ? Tétis ?»
Mon père claqua de la langue.
« Trop salée pour mon goût. »
« Eh bien, » conclut Glaucos,
« merci pour tes excellents conseils. Je vais y réfléchir. »
Ils passèrent sans me voir. Mon père prit sa place dorée auprès de mon grand-père. Glaucos se dirigea vers les banquettes pourpres. Il leva les yeux à une boutade d'un dieu fleuve et rit. C'est le dernier souvenir que j'ai de lui, ses dents luisantes comme des perles à la lueur des torches, sa peau teintée de bleu. Les années suivantes, il finirait par suivre le conseil de mon père. Il coucherait avec un millier de nymphes, engendrant des enfants à la chevelure et à la queue verte, appréciés des pêcheurs dont il remplissait souvent les filets. Je les apercevais parfois, batifolant tels des dauphins au creux des plus hautes vagues. Ils ne s'approchaient jamais du rivage.